Cette émission est produite dans le cadre d'une campagne internationale conjointe sur le thème de la nutrition, de l'alimentation et de l'agriculture, de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. La malnutrition est un problème de santé publique en Guinée. Les pratiques alimentaires des enfants de moins de 5 ans ne sont pas adéquates dans la majorité des cas, affirment les spécialistes. Selon donc les statistiques de 2012, 25% des enfants de moins de 5 ans sont nourris exclusivement au lait maternel contre près de 100%, le seuil souhaité par les spécialistes. Pour en savoir davantage, nous avons invité un groupe de médecins qui va essayer de nous édifier sur les informations liées à la problématique de la nutrition ou de la malnutrition. Dans cette émission, donc, je reçois Dr Ibrahima Khalil Kone. Il est le directeur général de l'Institut de nutrition et de santé de l'enfant INSEE à l'hôpital national d'Onka. Dr Odia Sano est assistante au programme de nutrition PAM sous bureau de la préfecture de la Baie. Dr Mamadi Dafé est le chef division alimentation nutrition au ministère de la Santé publique. Dr Yalikatou Kamara est médecin pédiatre responsable de la cellule de récupération nutritionnelle à l'hôpital national Ignace Dine. Voilà, madame, monsieur, à l'entame donc de cette émission, docteur Mamadi Dafé, représentant du ministère, va nous faire l'état des lieux.
Nous avons un taux d'allaitement maternel exclusif très bas, autour de 25%. La malnutrition aiguë est autour de 10%. La malnutrition chronique est autour de 31%. Et l'insuffisance pondérale est autour de 22%. Ces prévalences sont très élevées par rapport aux indicateurs de l'OMS.
Docteur Khalil Kone, vous êtes en contact direct avec les nouveau-nés. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état nutritionnel des enfants que vous rencontrez dans votre centre à Donka?
Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. La plupart des problèmes liés aux nouveau-nés ne sont pas d'abord connus. À plus forte raison, les problèmes de malnutrition. Autrement dit, nous les appelons les faibles poids de naissance. À ce niveau, au jour d'aujourd'hui, nous avons la statistique que près de 20% de nos enfants naissent prématurés. Également, il y a près de 10% qui sont de faible poids de naissance. À cela s'ajoutent les autres problèmes liés à la jumularité, parce que les grossesses jumulaires, quand même, constituent au jour d'aujourd'hui un véritable problème.
C'est-à-dire
qu'une femme qui accouche en une seule fois des jumeaux, autrement dit deux enfants, trois enfants, voire même quatre enfants, qu'elles nous sommes en train d'être confrontées. Imaginez maintenant que la naissance d'un enfant est un problème nutritionnel, surtout quand on sait que cette maman peut-être à des déficits nutritionnels qui peuvent se répercuter sur l'évolution même de la grossesse. Alors, en avoir deux, trois, et voire quatre, évidemment, cela ne peut pas aller sans problème sur l'état nutritionnel de ces enfants qui naissent. Alors, il faut comprendre là que ces enfants naissent avec un poids nettement inférieur dans la plupart des cas à 2,5 kg. C'est-à-dire que 2,5 kg qui est le poids seuil limite accepté pour dire que si tu as plus que ça, au moins tu as un poids optimum. Tu es égal ou inférieur à ça, ça veut dire que tu es d'un faible poids. Et en deçà de ça, on peut trouver toujours des enfants qui sont de 1000 grammes, 1200, 1500 grammes. Imaginez maintenant ce que cela pose comme problème en matière de nutrition.
Si vous avez recherché les causes de ces naissances.
Moi, je pense que ça, c'est un phénomène biologique qui se passe dans la période de fécondation. Donc, c'est un peu difficile que ce soit une anomalie. Ce n'est pas une anomalie. Si anomalie, c'est une anomalie bienfaisante. Par contre, le problème le plus grave, c'est la naissance des prématurés. Parce que l'élevage des prématurés, c'est quoi un prématuré? C'est un enfant qui n'a pas atteint l'âge gestationnel, c'est-à-dire la 36e semaine à in utero. Quand cet enfant naît, ça veut dire qu'il naît d'une façon immature dans toute sa composante. Alors, il a la difficulté de prendre le sein de sa maman, même si on souhaitait qu'il prenne le sein, parce qu'il n'a pas la suction et les autres réflexes archaïques, il lui manque beaucoup. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous assistons comme élément de cause, c'est les grandes souffrances des mamans. Et je crois que je salue cet atelier, c'est l'état d'alimentation vraiment insuffisant de certains de nos mères. Si en réalité il y a des phénomènes physiologiques qui se passent et quelque part qu'il y a un déficit de tel ou tel autre élément qui peuvent concourir à la maturation in utero, et si cela n'est pas fait, parfois ça peut concourir à la naissance d'enfants prématurés, sans oublier l'âge de la maman, sans oublier l'environnement de la maman, sans oublier l'état de santé de cette mère qui concourt tous. Autrement dit, c'est un multifacteur qui entre dans la naissance d'un enfant prématuré.
Voilà comment on va donc procéder à l'alimentation de cet enfant. Je ne sais pas, entre docteur Mamadi Dafi, docteur Yelikatou, qui pourrait dans un premier temps répondre à cette question de l'enfant prématuré.
En plus des causes que docteur Khalil vient de citer, je crois qu'il faudrait voir un peu que la malnutrition, surtout chronique, est intergénérationnelle. Et c'est plus de 15 ans que cette malnutrition reste stable autour de 35%. Et donc, ce facteur est dû non seulement à la manière dont la mère se nourrit depuis l'adolescence, parce qu'en fait, si on parle aujourd'hui de 1000 jours, c'est d'abord la période conceptuelle jusqu'à l'âge de 2 ans qui, pour les nutritionnistes, paraît être la période critique pour le développement non seulement de l'enfant, mais aussi pour la mère aussi. La nutrition de ces enfants prématurés, dire qu'ils n'ont pas la faculté de sucer le sein, donc on est obligé de presser le sein, mettre dans les tasses pour les alimenter. Mais le problème maintenant se situe où par rapport à ces problèmes de malnutrition, c'est qu'en fait, il faut reconnaître que par rapport aux deux enquêtes que nous venons de mener, et qu'il y a une période où ces taux de malnutrition sont très élevés, c'est la période de soudure. Plus souvent, on a des taux très faibles. Et l'enfant qui est prématuré grandit dans des conditions, si ces conditions, l'environnement ne sont pas changées, cet enfant va devenir encore une adolescente avec les mêmes problèmes et de carence. Et cette adolescente aussi va donner naissance toujours à un enfant, soit de faire une naissance ou un enfant prématuré.
Ça devient une
chaîne. C'est pourquoi on dit que cette malnutrition est intergénérationnelle. Et donc, c'est pour cela qu'avec les initiatives mondiales comme le mouvement Sun et les riches, et avec les recherches aussi scientifiques qui ont été faites, on a essayé de voir que la période vraiment critique pour le développement de ces enfants commence par la conception et puis jusqu'à l'âge de 2 ans, que c'est la période critique.
En ce qui concerne la prise en charge nutritionnelle des enfants prématurés, il faut savoir déjà que ces enfants, ce sont des enfants très fragiles qui doivent être pris en charge dans une structure spécialisée. Et il faut d'abord une éducation de la mère, parce que s'il faut les nourrir à partir du lait maternel, comme l'a dit Dr Dafé, ce sont des enfants qui n'ont pas la faculté de sucer. Donc en fait, le réflexe de succion n'est pas très développé chez ces enfants. Et il faut aussi tenir compte de l'état nutritionnel de la mère, puisque c'est la mère qui doit produire du lait maternel pour ses enfants. Donc ces enfants sont hospitalisés dans un service de néonatologie et pour un départ, ils sont alimentés à travers la sonde nasogastrique et à travers la sonde, après, on fait l'expression du lait maternel. Donc il faut que la mère ait la capacité de produire suffisamment de lait et c'est avec ce lait-là qu'on peut alimenter cet enfant. Parlons donc des 1000 jours, docteur Oudia Sano, assistante au programme nutrition chargée du projet 1000 jours sous bureau PAM dans la préfecture de l'Abbé. Est-ce que vous avez dans vos programmes d'activité la prise en compte de cette problématique d'alimentation des enfants, par exemple prématurés?
Nous avons dans nos activités et la prévention de la malnutrition chronique à travers l'initiative 1000 jours. Nous distribuons des boîtes de Plompidos aux enfants de 6 à 23 mois qui sont notre cible.
Et les enfants prématurés, avant d'aller d'abord à la distribution de ces produits?
L'initiative 1000 jours n'est pas un projet qui prend en charge la malnutrition aiguë, mais plutôt qui prévient la malnutrition chronique.
Vous n'intervenez pas dans la prise en charge nutritionnelle des enfants prématurés?
Non, plutôt dans la prévention de la malnutrition chronique qui a des conséquences irréversibles sur la santé de l'enfant, notamment le retard mental et la non-évolution de l'enfant à l'école et qui va avoir des complications sur la vie sociale de la famille et presque de toute la nation.
Toujours sur la même question. Monsieur Khalil, je reviens vers vous. Vous gardez ces enfants après la naissance. Pour combien de temps? Est-ce qu'il y a un service qui s'occupe spécialement de leur alimentation?
Je pense qu'il y a lieu de voir si c'est le service spécialisé et où il n'y a pas de service spécialisé. Faudrait-il laisser pour compte ces enfants? Je dis non. Ce sera la approche que communautaire. Et je crois que les 1000 jours s'inscrivent dans cette approche. Et c'est ce que nous avons appelé le système kangourou, SMK, soins maternels kangourou. Le soin maternel kangourou s'applique à des enfants prématurés qui, naturellement, peuvent être d'un poids après ça ou de quelque chose. Et dans la communauté, ça veut dire que la maman doit pouvoir couvrir suffisamment cet enfant en le portant sur son ventre et en le couvrant de toit. Parce que ce qui est plus grave, au-delà de ce que nous appelons nourrir cet enfant, c'est d'abord son existence environnementale. Car le froid tue l'enfant. Donc il faut le protéger à l'abri du froid. Et comme l'ont dit les gens, c'est le lait qui sert d'élément de base. Mais je pense qu'il faut faire une nuance. En ce qui concerne les enfants prématurés naissent avec un faible poids. Mais s'ils sont mal nourris, c'est que peut-être ils n'ont pas atteint l'âge gestationnel qu'ils auraient pu avoir le poids idéal souhaité. Mais s'ils avaient atteint cet âge, je crois que ça pouvait y arriver. Mais puisqu'ils n'ont pas atteint cet âge, alors le développement récent, encore, il faut qu'ils le fassent au développement à l'extérieur de l'utérus. Ça veut dire qu'après la naissance, donc ce qui fait qu'il y a une grande problématique autour de cet enfant. On doit pouvoir le nourrir avec le lait maternel, le lait de sa maman dans les conditions normales. Et je crois que Dr. Daffy l'a dit tout de suite, il faut faire l'expression de ce lait. Bon, l'administration de ce lait peut varier d'une situation à une autre donne. On a dit tout de suite, la succion est faible, c'est vrai, mais il a dit qu'on peut donner à la cuillère. Mais il faut apprendre cette maman la pratique de dire, il faut exprimer le lait, c'est déjà une pratique. Et aussi l'administrer est une autre pratique. Quand tu vois ce petit être qui est là, et qu'on ne voit même pas entre les toiles, voyez-vous ce que ça représente.
Et vous le dites souvent, pour que la maman ait le lait de façon régulière, il faut que l'enfant tète. Mais si l'enfant là ne peut pas téter directement?
En fait, c'est le réflexe. Même si l'enfant ne peut pas téter, il faut faire la mise au sein dès après l'accouchement et continuer à mettre au sein cet enfant pour déclencher ce réflexe de production de lait. On ne peut pas dire que parce que l'enfant ne peut pas sucer, il n'a pas le réflexe de succion, qu'on ne va pas le mettre. L'enfant est mis au sein régulièrement. Et comme l'a dit Dr Khalil, une technique d'allaitement très très efficace qu'on appelle la méthode kangourou. Vous avez vu les kangourous, ils mettent leur bébé sur le ventre. Donc l'enfant, on peut le mettre sur le ventre de sa maman pour garder le contact. Et à chaque fois, le contact maternel, bien sûr, à chaque fois le mettre au sein. Le fait simplement de le mettre au sein, ça déclenche le réflexe de production du lait maternel. Et effectivement, on pourra à la longue alimenter cet enfant correctement. Et la production de lait va commencer.
Madame, monsieur, vous recevez cette émission sur la nutrition. Nous avons comme invité Dr Odia Sano, assistante au programme de nutrition chargée du projet 1000 jours, sous bureau PAM dans la préfecture de l'Abbé. Dr Yalika Tukamara, les femmes sont là, hein, on n'est pas les dans cette émission. Médecin pédiatre responsable chargé de la cellule récupération nutritionnelle au CHU Ignace-Dine, commune de Kaloum à Conakry, Dr Mamadi Dafé. Il est chargé de la division alimentation nutrition au ministère de la Santé. Et enfin, Dr Ibrahima Khalil Koneke, le directeur du centre de l'INSEE, de l'Institut de nutrition de la santé et de l'enfant. Dans la suite donc de cette émission, le renforcement de la nutrition dans le continuum de soins des 1000 jours. Qu'est-ce que ça dit?
Une stratégie de lutte contre la malnutrition chronique qui commence par la période critique de la grossesse jusqu'à l'âge de 2 ans pour l'enfant. Par rapport à ça, on a les 6 points de contact au niveau de la consultation prénatale. C'est en ce moment que la femme doit être conseillée aussi par rapport à son alimentation, quel aliment la femme doit prendre. Ce conseil est introduit au niveau du continuum de soins, parce qu'au niveau de la CPN, il y a les pesées, puis il y a d'autres activités qui sont menées pour la femme enceinte, comme par exemple lui donner du FAF, et puis aussi un antipaludique et des conseils aussi par rapport à l'allaitement, pour la préparation à l'allaitement maternel. Et après ce point de contact, il y a l'accouchement aussi. Je crois qu'il y a des activités qui sont menées par rapport à l'accouchement. Nous insérons les activités de nutrition, comme par exemple la mise au sein précoce, immédiatement l'heure qui suit l'accouchement. Et par rapport à un autre point, c'est le suivi de la croissance. Quand l'enfant vient pour la vaccination, il faudrait aussi prendre son poids, sa taille, et voir comment l'enfant se développe par rapport à son poids et à sa taille, et par rapport à son âge et son poids. Toutes ces activités doivent être menées au niveau des centres de santé, au niveau communautaire. Ces activités permettre de suivre le développement harmonieux de l'enfant par rapport à sa aux périodes critiques, comme par exemple immédiatement après la naissance, il faut faire l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. À partir de 6 mois, il faut introduire un aliment de complément, et avec les qualités de ces aliments de complément, parce qu'en fait, de 6 mois à 9 mois, qu'il faut donner en plus du lait maternel, il faut donner aussi 2 fois l'alimentation de complément avec toutes ses qualités, qui doit être riche et renfermant les 3 groupes d'aliments, le groupe des aliments de construction, aussi les aliments protecteurs et les aliments énergétiques. Donc tous ces aliments doivent faire partie de la composition de l'alimentation qu'on doit donner à l'enfant. 9 à 12 mois, on ajoute encore un aliment de plus, c'est-à-dire au lieu de 2, ça va être 3, et ainsi de suite. Donc c'est ces points de contact que nous sommes en train de développer et pour lutter contre la malnutrition chronique. Avec le fait que la Guinée est rentrée dans le mouvement SUN, nous avons pris des engagements. C'est surtout de réduire la malnutrition chronique d'ici 2025 de 35 à 20%. Et donc c'est pour cela que les activités de 1000 jours sont menées, non seulement dans le cadre de la prévention, mais aussi de l'intégrer dans le continuum de soins. Parce qu'en fait, quand on a regardé un peu les successions des continuums de soins, on a vu qu'il y a très peu d'activités de nutrition. Pour essayer de voir à ces points de contact, quelles sont les différentes activités de nutrition qu'il faut mener pour qu'on puisse avoir une directive du renforcement de la nutrition dans le continuum de soins de 1000 jours, parce que c'est cette période qui est la période la plus critique.
Docteur Odia, vous êtes actuellement sur le terrain pour la mise en œuvre de ce projet 1000 jours, avec toute la problématique nutritionnelle qui doit être intégrée prochainement.
Nous sommes dans la préfecture de l'Abbé, précisément dans 3 sous-préfectures, celui de Gionfo, Tunturu et Dalin. Le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, a réalisé une enquête appelée le SMAT, qui a relevé un taux de malnutrition chronique de 40% dans la région de l'Abbé. Mais il s'est avéré que les zones de Koubia sont les plus touchées. Donc on a choisi les sites qui sont à la frontière de la préfecture de l'Abbé et de ces zones. Et ensuite, dans ces 3 sous-préfectures, il y a des activités de prise en charge de la malnutrition aiguë, et qui reste une synergie d'action entre la prévention et la prise en charge de la malnutrition chronique.
Quel est le niveau d'exécution depuis que vous avez commencé il y a quelques mois, je pense?
Oui, nous avons commencé la distribution il y a quelques mois du plan Pidose aux enfants, et nous donnons des kits d'hygiène, c'est-à-dire 5 morceaux de savon aux femmes que nous avons identifiées. Et comme le projet l'a demandé, on a besoin de 3000 femmes et 3000 enfants pour le projet pilote.
Le projet, après l'exécution dans la région de l'Abbé, pourrait être répliqué dans d'autres localités de la Guinée?
Oui, je sais pas. Oui, bon, en fait, nous avons un autre projet qui aussi s'occupe de la lutte contre la malnutrition chronique intégrée avec la FAO, en Moyenne et en Haute-Guinée, aussi en Forêt, je crois que c'est dans 3 régions. Et on va mener les mêmes types d'activités. Cette fois-ci, ça va être une stratégie intégrée, c'est-à-dire en plus des activités qui vont rentrer dans le continuum du soin, il y aura aussi le fait que les agriculteurs vont être appuyés. Ensuite, les femmes qui font le maraîchage aussi vont être appuyées dans ces zones. Donc, ça va être une intégration, parce que ça ne sert à rien de dire aux gens de consommer ces aliments si la disponibilité n'existe pas. Donc, c'est pour qu'avec la FAO, cette fois-ci, on fait un projet intégré de lutte contre la malnutrition chronique en appuyant les femmes qui vont produire à travers les maraîchers, et ces aliments vont être utilisés au niveau des centres de santé, et ensuite aussi essayer de faciliter la tâche aux agents de santé. Il est prévu d'élaborer un plan de communication, de voir un peu quels sont les bons messages qu'il faudrait adresser à chaque cible de la population. Sans compter aussi que dans le même ordre d'idée, nous sommes en train d'élaborer une boîte à images qui va servir aux agents de santé d'éduquer les mères pour qu'ils puissent savoir les bons comportements à travers les pratiques familiales clés.
J'ai été très agréablement surpris pour voir l'agencement qui a été fait. Donc ça, c'est vraiment une grande innovation dans notre système. En ce sens que tout ce qu'on est en train de mettre là existe. Mais en faire une stratégie, c'est ça le grand point. Et si déjà il y a quelqu'un qui s'engage dans ce sens pour mettre une stratégie à la portée de tout un chacun, ça, vraiment, je ne peux que saluer. Puisque si vous voyez ce que nous avons élaboré durant ces jours, il a dit continuum de soins, quelles sont les activités de renforcement en matière de nutrition renforcée, c'est que c'est quelque chose qui vient s'ajouter au préexistant. C'est dans ce sens-là que vraiment, nous aussi, nous rentrons en ligne de compte. Sinon, en matière de prévention, on a un volet préventif. Il se passe chez nous qu'un des points importants de contact, la vaccination. Il y a une grande cohorte de femmes en grossesse qui viennent, qui se font vacciner en période de grossesse. Deuxièmement, il y a le volet allaitement maternel. Nous avons un centre de nutrition qui sert exclusivement à la gestion. Et nous l'appelons centre de gestion de la lactation. Parce que c'est là où toutes les femmes ayant des problèmes de gestion, de difficultés d'allaiter, parce que la femme peut avoir des difficultés d'allaiter en étant une femme qui a échappé au conseil d'allaitement en CPN, alors on vient, on les gère là. Ça, c'est déjà un volet préventif au-delà du curatif que nous sommes en train de faire. Troisièmement, il a donné un schéma d'alimentation de complément. Nous appliquons le schéma d'alimentation de complément. À partir de là, voilà les aliments qu'il faut conseiller à tel enfant, à tel enfant, à tel enfant. Il faut les serrer. Et si vous voyez, nous avons eu des cas d'enfants sains et des cas d'enfants malades. Quand c'est déjà des enfants sains, quel type d'aliments il faut ajouter à l'allaitement maternel ou autre aliment jusqu'à la consolidation entièrement, parce que ça prend en compte beaucoup de nos préoccupations.
Oudia Sano,
dans nos activités, nous faisons des counseling, nous faisons des activités de changement, de communication pour un changement de comportement. Je pense que nous mettons beaucoup plus l'accent sur le changement de comportement dans la mesure où un jour le partenaire va se retirer du projet, c'est pour une pérennisation. Nous sommes là aujourd'hui, nous donnons le plan pinote et le plan pidose au tampon, nous donnons les savons, les kits d'hygiène. Mais le jour que le PAM ne sera pas là, que doit faire la communauté? Il va falloir que la communauté parvienne à se prendre en charge elle-même point de vue nutritionnel. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les informer sur la nutrition, comment s'alimenter à partir des aliments locaux que nous avons chez nous. Également, nous travaillons aussi avec les groupements. Nous avons les groupements maraîchers, nous avons toutes sortes de groupements à tous les niveaux. Ces groupements nous servent aussi de point d'entrée pour communiquer avec les femmes et avec nos cibles. Et je pense que si le changement de comportement est acquis à la fin du projet, et le PAM peut aussi s'y retirer facilement, et que les structures de santé puissent continuer librement et facilement avec ces FEFA qui ont une connaissance vraiment améliorée de FEFA, la nutrition. C'est les femmes enceintes et les femmes allaitantes qui puissent continuer librement avec ces femmes qui ont un niveau de connaissance vraiment amélioré par rapport à leur nutrition et à la nutrition des enfants. Et quand on fait ces communications, d'une part, l'enfant qu'on est en train d'aider pour prévenir la malnutrition chronique chez eux, mais aussi on fait des activités de dépistage. Donc, après chaque distribution...
Le dépistage de quoi?
De la malnutrition aiguë, nous sortons en stratégie avancée, nous récupérons tous les enfants et qui souffrent de malnutrition aiguë et nous les référons au centre de santé. Nous supposons que les enfants qui sont dans notre cohorte ne doivent pas faire leur malnutrition aiguë. Dans la mesure où nous faisons les démonstrations culinaires, nous faisons des counseling et des éducations nutritionnelles, donc la malnutrition aiguë est également prévenue chez cette...
Mais comment la communauté contribue dans la mise en œuvre de cette démonstration culinaire? Est-ce que vous donnez tout cadeau parce que le projet a une durée limitée?
On sait que le PAM, par excellence, est une structure qui fait la distribution des vivres. Mais voilà, avec ce projet, nous ne donnons rien à la communauté comme vivre. Nous les encourageons à travers ces produits maraîchers de nous apporter les condiments de base. Dernière fois, on a fait l'haricot. C'est la période des haricots à l'abbé. Donc, les femmes nous ont cueilli des haricots dans les maraîchers. Ils ont envoyé les petits condiments, dont l'oignon, et nous, on a envoyé de l'huile. L'organe qui est chargé de l'exécution, le Club des Amis du Monde, nous a procuré des morceaux de poisson et le CAM a donné aussi un peu de sel iodé.
Une question pour essayer de boucler cette émission. Docteur Dialikatou, quels sont les problèmes nutritionnels généralement selon la tranche d'âge que vous rencontrez dans votre centre de récupération?
Nous évoluons dans un CHU, donc nous sommes un centre de référence. Et imaginez qu'on aura toutes sortes de problèmes nutritionnels. D'abord, ce sont des enfants malades qui n'ont pas eu suffisamment ce qu'ils doivent manger et par conséquent qui sont tombés dans un état de malnutrition. ou ce sont des enfants qui ont été victimes d'une malnutrition chronique. C'est-à-dire un enfant qui est d'une mère qui a des problèmes nutritionnels et ces problèmes se sont répercutés sur l'état nutritionnel de l'enfant. Ou en tout cas à cause d'une affection ou d'une autre, l'enfant est tombé dans cet état de malnutrition. C'est ce qui a fait d'ailleurs que nous avons eu à ouvrir cette cellule de nutrition pour venir en aide des enfants malades qui souffrent de malnutrition, et quel que soit le type de malnutrition. Donc c'est en fait ça notre travail quotidien. Ensuite, nous avons aussi dans le service des enfants infectés, par exemple des enfants nés de mères séropositives qui viennent dans un état de maladie VIH-SIDA, malnutrition chronique ou malnutrition modérée, et avec leur statut d'infection. Donc, il faut non seulement prendre en charge des infections concomitantes à leur état de nutrition,
et c'est gratuit.
De malnutrition. Oui, c'est gratuit dans la prise en charge de la malnutrition.
Je vais parler des mères qui sont dépistées séropositives.
Non, c'est gratuit, c'est complètement gratuit. La prise en charge médicale, elle est gratuite. La prise en charge nutritionnelle est gratuite.
Quelles sont les perspectives maintenant pour davantage améliorer vos services au niveau de votre centre de récupération?
Vous savez que nos centres de récupération ont des moyens très très limités et nous avons affaire à des populations très démunies avec leur état de maladie. Donc les perspectives, nous voudrions quand même dans l'avenir que ces enfants soient mieux pris en charge malgré les efforts fournis qui ne sont pas naturellement suffisants. Puisque de plus en plus nous rencontrons des problèmes de santé, il faut forcément les prendre en charge. Vu les moyens limités de nos structures, nous avons des difficultés par rapport à ça.
Et vous demandez aux femmes du moins de fréquenter vos centres pour finir?
Nous demandons aux femmes de fréquenter les centres parce qu'une maladie, ça se traite dans une structure appropriée.
Il y a un protocole bien établi au niveau national et je crois qu'il est le garant de l'application de ce dit protocole. Et je pense que tout le travail que nous avons eu à faire ici vient en renforcement de ce protocole. Que je suis très heureux d'avoir mis dans un système qu'au moins il faut renforcer la pratique de l'allaitement maternel et dans son exclusivité. Que cela soit dans le quotidien de tout un chacun. Parce que le renforcement du continuum de soins vient en termes de renforcement des capacités des agents sur le terrain. On a l'impression que les gens ont l'information, que les gens ont la formation. Je suis désolé, quand vous partez sur le terrain, c'est le contraire que vous allez trouver. Et je crois que c'est un outil qui va beaucoup aider les praticiens. L'on mette cet outil le plus rapidement que possible. Parce que vraiment, je fais confiance à ce qui a été mis là-dedans. Deuxième recommandation, il s'agit de mettre ça dans la compétence pratique des agents. Qu'est-ce à dire? Il faut assurer leur formation. Troisième chose, en tout cas, je souhaite qu'on en fasse un élément de suivi réel. Parce que rien ne sert à mettre un outil et qu'on voit la pratique que si nous ne mettons pas des outils. Et la dernière étape que je vais vous mettre là-dedans, je crois qu'elle y a pensé, mais il faut qu'elle y pense. Quels vont être les outils de recueil des informations et de remonter à la DAN pour voir, oui, j'ai essayé de faire ça. La stratégie que j'ai mise en place, voilà ce que j'ai pu récolter. Moi, je crois que dans tout notre travail, c'est un élément qui n'est pas...
Qu'il faut ajouter.
Qui n'est pas, non, il est là-dedans, mais parce qu'il ne se démarque pas des autres, mais qu'il faut spécifiquement essayer de renvoyer. Mais je sais déjà, probablement, il a pensé, comme il a dit qu'il est à la suite du travail, et on ne peut pas mettre tout ensemble. Nous, les praticiens, ça va beaucoup nous aider.
Madame Delabé, un mot à l'endroit des populations de l'Abbé pour lesquelles vous êtes actuellement sur le terrain.
Les autorités de la région de l'Abbé, les femmes, le comité d'assainissement d'hygiène, les AC, tout le monde est impliqué. J'invite tous les acteurs qui évoluent dans le processus du renforcement de la nutrition, de continuer à apporter des appuis afin que nous puissions réduire le taux de mortalité infantile maternelle.
Pour clore,
oui.
Daffy, représentant du ministère de la Santé.
Ce document, le continuum de soins, est un document nouveau, constitue l'ossature même de la nouvelle politique et du nouveau plan d'action multisectorielle qu'on vient d'élaborer. Je crois qu'on est en train de mettre encore une chose nouvelle, c'est la surveillance par SMS.
Mesdames, Messieurs, finis cette émission. Nous avons invité un groupe de médecins, en l'occurrence le directeur général de l'Institut de Nutrition et de Santé de l'Enfant INSEE à l'Hôpital National d'Onka, Dr Odia Sano, assistante au programme de nutrition PAM sous bureau de l'abbé, Dr Mamadi Dafi, chef division alimentation nutrition au ministère de la Santé, Dr Yali Kato Kamara, médecin pédiatre responsable de la cellule de récupération nutritionnelle à l'Hôpital National Ignace Dine. Voilà, pratiquement fini donc cette émission. Réalisation et présentation. Maman Adama Keita, au revoir et à la prochaine.